Les lectures de Mimi, votre nouvelle émission proposée par la Bibliothèque de Gérouville. Tous les jeudis, découvrez un nouvel extrait de littérature jeunesse et un nouvel extrait de littérature adulte. Votre nouvelle émission de lecture, c'est maintenant. Salut tout le monde et bienvenue dans ce deuxième épisode des lectures de Mimi. Le programme d'aujourd'hui en jeunesse sera de la bande dessinée avec Davide Tosteio et Blue au pays des songes. Pour les adultes, on part sur de l'horrifique avec Slimane Baptiste Beroun qui a écrit Les yeux. Je vous propose de commencer tout de suite avec Blue au pays des songes et un petit extrait puisque les deux premières pages de la bande dessinée ressemblent un peu à une histoire. C'est parti. J'aimerais vous raconter une histoire. Je me souviens de chansons et d'avions en papier. Vancouver Time de Leif Vollenbeck. C'est la chanson que j'écoutais ce jour-là. Grâce à ces chansons, je m'envole bien au-delà des nuages, là où tout est possible. Papa et moi, on adorait jouer avec les avions en papier qu'il fabriquait. C'était un moment parfait, mon moment parfait. Courant après ce petit avion, libre, heureuse et insouciante. Mais certaines choses changent vite. Les nuages sont soudain devenus noirs, si effrayants. Un monstre en est sorti et il m'a fait une terrible promesse.
« Je vais tout dévorer ici, mais pas toi.
Pas encore, ton heure n'est pas venue. »
Je jure que la prochaine fois que l'on se verra, je te dévorerai.
Et il a fait ce qu'il a dit. Il a tout mangé. Tout le monde. Mon papa aussi. Une tempête. Juste une tempête. C'est ce que les vieilles personnes ont raconté. Moi, je connaissais la vérité. C'est ma vérité. À partir de ce jour, je n'ai plus jamais osé sortir de la maison. J'avais trop peur. L'histoire que je vais vous raconter commence ici. Elle commence avec un avion en papier. C'est donc l'histoire de cette petite fille qui s'appelle Blue, une enfant qui a l'air de sortir très très peu de chez elle. Et un jour, son monde s'écroule totalement, puisque en plus d'avoir perdu son papa, la forêt semble être sur le point de dévorer entièrement sa maison. Blue décide donc de s'enfuir et d'essayer de survivre tant bien que mal. Et c'est là que commence cette espèce d'énorme aventure qui est vraiment à mi-chemin entre la fantaisie et l'horrifique, mais pour la jeunesse, donc extrêmement accessible. Alors c'est une belle petite série qui est terminée en 3 tomes, qui sont évidemment disponibles à la bibliothèque si vous souhaitez les emprunter. Et si on peut citer un point particulièrement important dans cette bande dessinée, évidemment, c'est le dessin. Dans la bande dessinée, il a toujours été central, et dans la bande dessinée de Blue au pays des songes, plus particulièrement, moi je le trouve vraiment magnifique. Donc on a notamment une scène, quand on arrive dans le pays suivant, où on voit des animaux qui sont particulièrement bien détaillés. Tout est fait dans des tons un peu pastels, un peu délicats. Et tant que ça ne concerne pas la terreur de Blue, le dessin est même plutôt coloré, à dire vrai. Donc voilà, il y a vraiment cette dichotomie entre la couleur et le côté plus sombre de la forêt qui dévore tout. Et c'est vraiment hyper, hyper intéressant. C'est vraiment une super bande dessinée. Moi, je l'ai beaucoup aimée. Donc ça fait à peu près un an qu'on l'a à la bibliothèque, et pour vous donner une idée, j'ai seulement pu l'emprunter maintenant parce que elle était pratiquement toujours de sortie. Donc au niveau des enfants, ça fonctionne super bien aussi, ce qui est pas étonnant quand on voit vraiment la qualité de dessin. Donc ça s'appelle Blue au pays des songes, le premier tome s'appelle La forêt envahissante, le deuxième s'appelle Bienvenue à Sad City, et le troisième s'appelle Le retour d'aveugle. Donc voilà, le scénariste, hein, l'auteur, si on peut dire, c'est Davide Tosteio. Et ça a été publié chez Vent d'Ouest. Vent d'Ouest qui est quand même plutôt réputée, entre guillemets, pour faire des bandes dessinées de très très grande qualité. Voilà, donc Blue nous parlait de la petite chanson qu'elle écoutait au moment où sa vie a basculé. Et donc, je vous propose d'écouter la même chanson que Blue pour voir si votre vie bascule également. Ça s'appelle donc « Vancouver Time » de Leif Volbeck. Whistling in alleyways, San Pedro's valley's haze, works my mind just like a maze. When I see you around, no, honey, you are not a kid. You know how to keep it hid. And I know just what you did in those buildings downtown, in the party's balcony. Well, you caught up with me. You said you were not through with me. Well, I could have guessed. Afternoons were losing light. December's moon was shining bright. That's when that you thought you just might. I said it for the best when we was in Vancouver town. The time I finally let you down, you was in some evening gown. And I was wearing jeans. Sometimes we run alongside each other. Sometimes it's like there's no other. Sometimes we make horrible lovers. Sometimes we're just me. You kiss my unshaven face and disappear without a trace. Maybe I'll get my own little place overlooking the ocean, Pacific Northwest on the southbound train. Buffalo clouds hanging above the plains. Some say I'm different, some say I'm the same. Some say I go through the motion. Some did change inside of me. Change something in the way I see. See those shadows hanging on the street. You can't outmaneuver time. I'm only leaving 'cause I can't stay. I always loved you and I never paid. I hear that even in LA. Vancouver Time. Vancouver Time. Vancouver Time. C'était donc Vancouver Time de Leif Volbeck, un artiste canadien qui nous envoie donc une petite douceur digne des plus grandes pépites de la chanson. Et je vous propose tout de suite de passer à notre extrait adulte avec Les yeux de Slimane Baptiste Beroun. Si ce nom ne vous est pas étranger, c'est que Slimane Baptiste Beroun, avant d'être un écrivain, est également acteur, réalisateur et a participé notamment à la web-série et au film qui est assez récent, Le Visiteur du Futur, dans lequel il joue le docteur Castafolt, qui est un automate empreint d'humanité. Donc assez. Pour ceux qui aiment la science-fiction, je vous conseille très fortement la série, elle est très très chouette. Et du coup, Slimane Baptiste Beroun s'est dit « j'ai des choses à raconter, j'ai des choses à écrire. Après tout, pourquoi ne pas essayer ?» Et donc, il a signé son premier roman « Les yeux » chez Bragelonne, qui est une grande maison d'édition de fantasy, fantastique, et qui commence à étendre un petit peu ses domaines de nos jours. Je vous propose de lire un premier extrait pour voir si cette lecture vous plaît. Et si elle vous plaît, évidemment, n'hésitez pas à la réserver en envoyant un petit message sur la page Facebook La Bibli de Mimi, Bibliothèque de Gérouville, ou en téléphonant directement à la bibliothèque au 063 41 10 31. On commence tout de suite avec l'extrait de Les yeux de Slimane Baptiste Beroun. Il était petit, tout petit, si petit qu'on ne prononçait généralement pas le « e », le petit, c'est comme ça qu'on disait, le petit Étienne, ou le petit con, selon l'humeur des infirmiers. On n'avait pas spécialement de sympathie pour les malades, vu qu'on n'était pas là pour ça, mais disons que les gamins, fatalement, on les remarquait. Pourtant, comme disait Valmont, un malade, ça n'a pas d'âge, ça a une maladie. Alors on les traitait comme les autres, les adultes. N'empêche qu'Étienne, le petit, personne ne s'attendait à ce qu'il finisse comme ça. Ses yeux morts fixant le ciel, la bouche ouverte à s'en décrocher la mâchoire, comme s'il était encore en train de hurler des injures. Allez savoir pourquoi. Dès qu'il ouvrait le bec, c'était pour baver des obscénités. Déjà qu'un gamin en a du mal à le piger, alors un gamin fou. Gauthier jeta machinalement un regard alentour, comme pour vérifier que personne ne l'avait entendu penser. On n'avait pas le droit de parler de fou. Malade, patient, officiellement, c'était ça les termes qu'il fallait utiliser. Mais en douce, personne ne se gênait. Pire, il avait déjà entendu Saint-Just parler des tarés, des mange-leur-merde ou des pisse-dessus. Sûr que ça allait faire de l'agitation quand la nouvelle se répandrait. Le vent se leva. Le jeune homme plissa les yeux et rabattit le col de son manteau. Ses cheveux châtains volèrent un instant, malmenés par le vent des hauts, qui commençait à poindre en cette période de l'année. On disait que tout en haut du plateau, ce vent-là pouvait rendre fou. On n'avait rien trouvé de mieux que d'y construire un asile. Là, sur le haut plateau de Bellechaux, battu par des rafales à vous décorner un troupeau de cocus. Asile non plus, on n'avait plus le droit de le dire. Hôpital psychiatrique, c'était ça le terme consacré. Mais ici, tout le monde disait l'orme. Que ça sous-entende hôpital ou asile de l'orme, c'était bien égal. L'orme, c'était une grande bâtisse étriée par le vent et la neige entre novembre et mars, et écrasé par le soleil le reste de l'année. Perdu au bout de la départementale 996, celle que personne n'empruntait jamais parce qu'elle ne menait nulle part, sauf ici. Si on la prenait par erreur, on n'avait pas loin de 27 km pour faire demi-tour. Autant dire qu'on n'avait jamais vu de vacanciers débarquer, persuadés d'être sur la route de Jacques Cœur. Les seules autos qui faisaient la traversée, comme on dit ici, c'était celle du facteur, des livraisons d'équipements et des livraisons de malades. Pourtant aujourd'hui, c'était un autre type de bolide qui avait monté la route. Du genre de ceux qu'on ne voit pas souvent. Le type qui en était sorti se tenait à côté et Gauthier n'osait pas lui jeter davantage que quelques coups d'œil à la dérobée. Il était grand et brun, se tenait droit comme si l'autorité de la loi lui avait raidi les lombaires. Cela faisait quelques minutes qu'il se laissait chahuter par les bourrasques, sans mot dire. Sûrement que c'était un truc de flic, pour se donner l'air profond ou quelque chose comme ça. Gauthier ne savait pas très bien. Au bout d'un moment, l'homme consentit à poser son regard sur le corps de l'enfant. Un regard impassible, neutre. Cette fois, le jeune homme le considéra avec insistance, comme pour percer à jour ce masque froid et illisible. Rien. La dépouille du petit était étendue dans la boue à l'extrémité de la cour. L'hôpital, jadis composé de 4 bâtiments en carré, formait à présent un U suite à la destruction du bâtiment sud lors d'un bombardement en 1944. Aujourd'hui, 8 ans plus tard, rien n'avait été reconstruit et la nature, rampante et vorace, semblait chaque année reprendre ses droits. Les optimistes disaient que cela offrait aux pensionnaires une belle vue sur le plateau. Les autres, dont ils faisaient partie, considéraient que cette plaie béante dans l'enceinte de l'asile n'était rien d'autre qu'un antre à courant d'air. Certaines nuits, les hurlements du vent se confondaient avec ceux des patients dans une litanie horrible. D'ailleurs, personne n'avait dû entendre les cris du petit. Le vent redoubla. Gauthier essuya une larme sur sa joue. « Foutue tempête !» Une main se posa sur son épaule. C'était celle du directeur Vidal.
« C'est dur pour nous tous, Gauthier !» lui souffla-t-il à l'oreille. « S'il vous plaît, faites front !»
Le jeune homme eut envie d'expliquer que s'il pleurait, c'était à cause de ce satané Vendéo. Mais il se ravisa. Mieux valait passer pour un émotif que pour un sans-cœur. Vidal appuya son étreinte un instant, comme pour donner plus de poids à ses paroles, puis se tourna vers l'homme en impair.
« Si nous pouvons vous être d'une quelconque assistance, commandant, n'hésitez pas. »
L'homme répondit par un bref hochement de tête et s'approcha du corps d'Étienne.
« Quel âge ?»
Le directeur le rejoignit. « 10 ans, arrivé il y a à peine 2 mois. » Aucune famille connue depuis la mort de la mère. Et comment dire?
C'était une sorte de placement temporaire.
Le commandant Durieux ne répondit pas tout de suite. Des enfants morts, il en avait déjà vu. Pas souvent, heureusement. Mais quelquefois tout de même. Pourtant, il n'avait encore jamais ressenti pareil trouble devant un cadavre. Il y avait dans l'expression figée de ce visage quelque chose d'inhabituel qui le mettait sourdement mal à l'aise.
« De quoi souffrait-il »
finit-il par demander. Le directeur ouvrait déjà la bouche pour répondre lorsqu'une voix forte et grave se fit entendre derrière eux.
« Hallucination paranoïaque et délire de persécution !»
Durieux fit volte-face pour découvrir un homme d'une 50aine d'années. De longs cheveux gris retombaient de part et d'autre d'un visage strict, au centre duquel 2 billes bleues le scrutaient posément. L'homme avait la nuque droite, de celui qui se sait important. Le commandant jeta un bref regard à sa blouse, parfaitement repassée.
« Bonjour, docteur, » le salua-t-il dans un hochement de tête. « Vous vous occupiez de ce patient ?»«
Entre autres, oui. » J'assure la supervision médicale de l'établissement.
Durieux n'eut aucune réaction, incapable de se figurer ce que ce titre pouvait bien signifier. Pour lui, un métier devait être simple. Boulanger, médecin, avocat. La supervision médicale d'un asile de fous, même s'il avait entendu dire que le terme était proscrit, ça ne lui évoquait rien. Comme s'il avait lu dans son esprit, le directeur Vidal intervint.
Le docteur Valmont est notre psychochirurgien en chef. C'est lui qui opère nos patients et établit tous les diagnostics. Il dirige également ses propres recherches comportementales au sein de notre établissement.
Durieux haussa les sourcils, vaguement impressionné.
Je vois.
En réalité, il ne voyait rien du tout. Il s'accroupit et approcha son visage de celui de l'enfant. Les yeux avaient séché, la langue également. Pourtant, l'expression restait intacte. De la terreur, il l'aurait juré. Il détailla un instant le reste du corps. Les segments des membres formaient des angles inhabituels comme si les articulations avaient cédé. Avait-on battu cet enfant ? Était-il possible qu'il soit tombé de suffisamment haut pour se briser les os ? Durieux leva les yeux pour inspecter les alentours. Aucun arbre ni bâtiment à proximité. Le gamin n'avait pas pu tomber du ciel. Il revint au cadavre. Les habits déchirés laissaient entrevoir des plaies béantes, plus ou moins coagulées. Des morceaux de chair semblaient avoir été arrachés des avant-bras et des cuisses. Il plissa les yeux dans une moue de dégoût. Des morsures. Cet enfant avait été partiellement dévoré.
Certains malades avaient-ils une raison de s'en prendre à lui ?
Vous savez, la raison n'est pas le fort de nos pensionnaires,
souligna Valmont. Le commandant ne releva pas le trait d'esprit.
Avez-vous remarqué la présence d'animaux dans la région ? Chiens ? Loups ?
Valmont laissa échapper un sourire narquois.
« Vous faites fausse route, commandant. »
Cette fois, Durieux se retourna vers le médecin.
« Éclairez-moi. »
À 7 ans, Étienne a attrapé la coqueluche. La maladie l'a cloué au lit plusieurs jours, de sorte qu'il ne pouvait plus aider sa mère aux tâches quotidiennes. La pauvre femme est morte dévorée par un animal, probablement un loup, alors qu'elle était allée chercher du petit bois.
Et ?
Étienne est encore trop jeune quand ça s'est produit. Son cerveau ne pouvait pas comprendre la situation. Tout ce qu'il a pu se formuler, c'est que par sa faute, sa mère était morte dévorée. Lorsqu'il entrait en crise, il se prenait pour un animal et tentait de s'auto-mutiler. Certainement une manière pour lui de tuer la bête qui avait emporté sa mère. Nous devions constamment le surveiller pour s'assurer qu'il ne se morde pas jusqu'au sang.
Durieux garda le silence un instant, jaugeant la crédibilité de cette information. L'enfant avait-il pu s'arracher les chairs et se laisser mourir d'hémorragie comme pourrait le faire une personne s'ouvrant les veines ? Si c'était le cas, n'aurait-il pas dû attendre la mort, les yeux clos, les traits plus sereins ?
Et pour le visage ? Demanda-t-il finalement. Pourquoi semble-t-il avoir...
L'expression que vous lisez sur le visage d'Étienne n'a aucun sens,
coupa Valmont.
Aucun sens émotionnel, j'entends.
Je ne comprends pas.
Pupille dilatée, hémorragie sous-conjonctivale.
Vous voulez parler des yeux rouges ?
Oui, et la raideur des muscles maxillofaciaux, ce rictus résulte d'une surdose médicamenteuse.
À ces mots, Gauthier tressaillit.
Allons bon, voilà que ça allait lui retomber dessus. Certes, il avait le titre de pharmacien, mais dans les faits, tout le monde savait qu'il ne faisait que distribuer les traitements prescrits par le docteur Valmont. Il n'était ni plus ni moins qu'un garçon de café. À ceci près qu'il ne distribuait pas de boissons, mais des pilules.
Et que ce n'était pas le client qui choisissait ce qu'il allait consommer. Et aussi qu'il n'y avait jamais de pourboire. Gauthier songea que, tout compte fait, l'analogie était mal choisie. Il jeta un regard paniqué au chirurgien, qui d'un bref mouvement de tête lui intima le silence.
« Gauthier, notre pharmacien, pourra vous fournir le registre du soir, » reprit Valmont. « Les doses y sont inscrites. Malheureusement, il arrive que des malades stockent leurs pilules plusieurs soirs de suite pour prendre une dose plus forte. »
« Dans quel but ?»
Atténuer la douleur, s'évader, se tuer, allez savoir.
Le jeune homme se détendit. Valmont venait de l'innocenter. Durieux se redressa lentement, déroulant méticuleusement son dos, comme le font les personnes de grande taille. Il balaya la cour du regard.
En parlant d'évasion, que faisait-il dehors ? Les patients ne sont pas enfermés pour la nuit ?
Ce fut le directeur Vidal qui répondit.
« Si, bien sûr, mais il arrive que certains de nos pensionnaires parviennent à tromper la vigilance des gardiens. Nous sommes, un petit établissement de campagne, légèrement isolé. Saint-Just et Pasquier font des rondes, mais ils ne peuvent pas assurer correctement la surveillance d'un si grand bâtiment à eux seuls. Ça fait des années que je demande des fonds pour... »
« Je vois, » nota machinalement Durieux. Il jeta un dernier regard au corps de l'enfant, étendu dans une mare de sang noir, son visage figé dans une expression d'horreur. Et je vous laisse sur la fin de cet extrait. Donc, c'était donc « Les yeux » de Slimane Baptiste Beroun. Et puisque l'on dit souvent que les yeux sont les fenêtres de l'âme, je vous propose d'écouter une chanson qui s'appelle « Je veux tes yeux » de Angèle.
Je veux tes yeux, que tes beaux yeux seulement en photo, je veux les deux. Je veux les deux sans sentir ta peau. Connectée en ligne, mais pas à moi. J'attends ton signe, je crois qu'il n'y en a pas. J'ai vu que t'as vu, tu réponds pas. Alors j'attends, toujours j'attends, qu'enfin il sonne, ce son l'attend. Peut-être je me mens, peut-être j'en tremble. Faudrait pas que tu penses que je veux tes yeux, que tes beaux yeux. Un jour peut-être, on se verra, mais pas tout de suite, je préfère pas. Je préfère l'illusion de t'avoir, j'ai espoir, mais t'invente pas trop d'histoires. Ok, je sais déjà que si tu m'oublies, ça m'apprendra que je veux tes yeux.
Et oui, les lectures de Mimi, c'est déjà fini. Mais vous savez quoi ? C'est trop bien parce qu'on peut se retrouver la semaine prochaine pour un nouvel extrait lecture en jeunesse et en adulte. Merci à tous de nous avoir suivis, passez une super belle journée et à très bientôt !